cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 15 janvier 1993.
Et c'est à la fois stoïcien, non plus de métaphysique, mais théologique, d'une certaine manière. Mais si le mot prosopone, dans son sens profond, dans son sens d'hypostase, n'apparaît qu'avec les stoïciens et ensuite les néoplatoniciens, Plotin, la réalité existe chez Aristote. Et c'est là où saint Thomas dit, faisons attention, des réalités en philosophie et non pas des mots. Alors dire le mot personne n'apparaît en philosophie grecque qu'avec les stoïciens, c'est juste pour le mot, mais la réalité est chez Aristote. Et je crois que c'est proprement chez Aristote avec la philia, avec l'amitié, qu'on peut dire que le mot personne est présent. Dans toute l'éthique d'Aristote, on peut dire que la personne est présente et le mot n'y est pas. C'est comme pour le vouloir, boulesis, la volonté. On dira que la volonté n'apparaît qu'avec les stoïciens. C'est du reste intéressant, vous voyez, que volonté et personne, au fond, dans leur expression, n'apparaissent qu'avec les stoïciens. Mais il est bien évident que le vouloir, l'acte volontaire, est présent chez Aristote. C'est toute l'éthique. Un problème très intéressant de se poser, la question du reste, est-ce qu'il peut y avoir un acte moral qui ne soit pas volontaire? Je crois que vous répondez tout de suite. L'acte moral est toujours volontaire. Peut-il y avoir un acte volontaire qui ne soit pas libre? Alors là, vous commencez à hésiter. Faites ce petit parallélisme, et c'est intéressant pour le problème de la personne. Voir comment est né le problème de la personne en philosophie grecque. Et de la naissance du problème de la personne en philosophie grecque. Intituler ça comme ça. Alors, vous avez l'acte moral égale acte volontaire. Pouvez-vous dire acte volontaire égale acte libre? Alors ici, un petit obstacle, hein. Moral et acte volontaire, je crois que vous êtes bien obligé de l'accepter. Donc, une éthique comme celle d'Aristote, l'éthique à Nicomaque, implique l'acte volontaire. Et Aristote parle d'acte volontaire et d'acte involontaire. Il y a des actes humains qui sont volontaires et des actes de l'homme nécessairement toujours volontaires. Ils sont des actes de l'homme. Et alors, l'acte libre précise dans le volontaire quelque chose de particulier. Je crois qu'il faut comprendre que tout acte moral est un acte volontaire. Alors, la boulésis, donc le volontaire, la volonté comme telle, n'apparaît explicitement que chez les stoïciens, au dire des historiens. Et le mot personne apparaît en même temps. Mais la réalité de l'acte volontaire et donc de la volonté est présente dans toute l'éthique d'Aristote. Et c'est pour ça que je peux dire que la réalité de la personne est présente dès qu'on parle de l'ami. On aime une personne. C'est la personne qu'on aime dans l'amitié. De sorte que distinguons les deux problèmes. L'émergence de la réalité personne. Et le mot, il est évident qu'ordinairement, le mot n'arrive qu'après l'analyse. Et la réalité peut être saisie avant, sans qu'il y ait le mot. Parce que le mot prosopone, qui veut dire personne, n'est-ce pas, en grec, a une signification très particulière au point de départ. C'est le masque, la fonction que tel comédien remplit dans le théâtre. Alors il y a le masque, et le masque exprime la fonction. Vous voyez, c'est le symbolisme de la fonction, le masque. Alors c'est très curieux que c'est prosopone qui exprime en premier lieu ce qu'est la personne. On dirait aujourd'hui, c'est la personnalité de quelqu'un se manifeste dans la fonction sociale qu'il a, dans la fonction humaine qu'il joue. Et c'est intéressant de voir qu'au fond, le mot prosopone, le masque du comédien, va devenir le mot personne. C'est toujours intéressant de voir la genèse des mots. Il ne faut pas faire que la genèse des mots donne la signification des mots, mais ça nous aide à mieux comprendre une signification latente. Donc, la réalité de la personne, je crois, apparaît même avant Aristote, chez les pythagoriciens, avec tout le problème religieux. Les pythagoriciens sont les premiers qui, j'allais dire, commencent leur philosophie par le problème religieux. Ce sont des communautés religieuses que fondent les pythagoriciens. Des communautés religieuses de prière, de recherche de la vérité, d'ascèse. Il y a une ascèse pythagoricienne, très nette. Il ne faut pas prendre de fèves. Il y a des aliments qu'on exclut, des aliments impurs. Alors, on va retrouver ça dans l'écriture. Donc l'ascèse touche la nourriture. Et on revient aujourd'hui à ça. Les cures pour vous remettre en bonne santé. On vous supprime toute une série d'aliments qui sont toxiques. Et qu'on en prend, nous, comme ça, au bout d'un certain temps, tout est... Alors, il faut évacuer tout ça. C'est très pythagoricien, ça, c'est très vieux. C'est pas nous qui avons inventé ça, c'est très ancien. Il y a des aliments purs et des aliments impurs. Et dans les aliments purs et les aliments impurs, en même temps, ne pas lier tel aliment avec tel autre aliment. Vous voyez dans l'écriture. Et vous voyez... Toute la ascèse religieuse juive, toute la ascèse religieuse pythagoricienne. C'est intéressant parce que ordinairement on oppose les Grecs et les Sémites. Il y a un point de commun entre les Grecs et les Sémites, c'est l'attitude religieuse et l'ascèse. Et là vous retrouvez des choses tout à fait communes, ce qui prouve que l'aspect le plus fondamental au point de vue réflexion anthropologique est une réflexion religieuse. Oui. Alors, il faut voir que le problème de la personne humaine, avant de se poser d'un point de vue éthique, parce que l'éthique, c'est l'acte volontaire, et l'acte volontaire n'est pas premièrement, génétiquement, l'acte religieux. Le petit enfant, oui, s'il est dans une famille très chrétienne, après avoir mangé, il prie. Et il prie avant d'avoir mangé. On fait une petite bénédiction, très vite, avant de se jeter sur le chocolat, bénédicité. Avant de se se précipiter sur sa soupe. Benedicite, c'est la différence avec le chien. Parce que le chien, il se précipite sur sa soupe. Puis, il prend ça avec rapidité. C'est très beau de voir le chien qui l'aplomb et qui mange. Pas de benedicite. Tandis qu'au contraire, l'homme prie avant de manger. C'est héroïque, ça. Je les sens tout en admiration. De voir un homme affamé qui prie avant de manger. Et au fond, ça montre que la personne s'enracine dans le point de vue religieux. Elle s'enracine ensuite dans le point de vue de la fonction. Elle s'enracine ensuite dans le point de vue éthique et dans le choix éthique et dans le choix amical. Vous avez cet aspect génétique intéressant du reste à voir pour comprendre comment dans la philosophie grecque est né le problème de la personne. Le mot prosopone chez les néoplatoniciens va s'exprimer par hypostasis. Alors que le mot hypostasis chez Aristote le matérialiste, hypostasis veut dire le dépôt de l'urine. Chez Aristote, c'est très amusant ça. Je crois que c'est le mot qui a le plus évolué. Le mot hypostasis pour Aristote, avec l'atavisme médical chez Aristote, son père était médecin. Hypostasis veut dire le dépôt de l'urine. Et hypostasis est devenu l'hypostase, la personne. C'est très curieux, c'était extraordinaire comme... Vous voyez, c'est très curieux que c'est autour de la personne que vous trouvez, au point de vue philologique, la plus grande changement. Alors, il faut savoir pourquoi. Pourquoi, de fait, il y a eu cette espèce de difficulté énorme d'arriver au mot personne. Et nous, on emploie ça couramment. Parce que, justement, si j'aborde le problème de la personne en philosophie première, ça ne s'est pas fait chez Aristote. Le mot personne est resté dans l'anthropologie. Transporter le mot personne en philosophie première, ça représente tout un monde, ça. Et je crois que c'est peut-être là où on touche de l'influence de la révélation chrétienne sur la philosophie. Alors c'est le troisième, c'est le second, vous voyez. Si vous faites une topic sur la personne, regardez l'origine chez les Grecs, donc ce que je viens de vous dire, les pythagoriciens, Aristote, les stoïciens, vous avez trois moments. Faites le parallélisme avec hypostasis. Alors, les néoplatoniciens. Donc, quatre moments, si vous voulez. Hein. Il faut bien noter. Et réfléchir, c'est intéressant. Le mot prosopone, hypostasis. L'apport de la révélation chrétienne. Les théologiens réfléchissent sur la personne. Pourquoi ? Le mystère de la très sainte Trinité et le mystère du Christ. Le mystère de la très sainte Trinité. Dieu est un et trois personnes. Le mystère du Verbe incarné, de personne. C'est extraordinaire, hein, de voir ça. Si vous voulez regarder, unité, simplicité de Dieu. On dira le problème de l'essence de Dieu. Ça, Avicenne, le problème de l'essence de Dieu. Et que ça demain reprendra. C'est juste l'inverse, si j'ose dire. Puisque une nature, trois personnes, deux natures, une personne. Puisque dans le mystère du Christ, la nature humaine, la nature divine, assume la nature humaine dans une unité personnelle, l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est donc dans une seule personne. C'est le Verbe qui assume la nature humaine. Le Verbe qui implique la nature divine et qui a assume la nature humaine. Donc, une personne est de nature. Vous comprenez que ces deux mystères, le mystère de la très sainte Trinité, le mystère du Christ, qui vont ensemble, puisque c'est par le Christ que la très sainte Trinité m'est révélée. C'est par le mystère du Verbe qui se fait chair en Marie que la très sainte Trinité est révélée explicitement. Le mystère du Christ et de la très sainte Trinité exige les théologiens à creuser qu'est-ce que c'est que l'hypostasis, la personne, qu'est-ce que c'est que la phusis, la nature, et l'ousia. Et en plus de ça, tous ces problèmes vont se situer dans le passage du grec au latin. Parce que les premières réflexions chrétiennes, théologiques, sont en grec. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher au latin comme si c'était l'absolu. C'est le grec. C'est pas le latin. Soyez grec. Alors là, je comprends. Revenez à la source. L'hébreu. C'est pas pour rien que les évangiles ont été écrits en grec. Et les premières spéculations sont en grec. Et alors, tout le passage du grec au latin. Alors, au plan philosophique, vous avez Cicéron. Au plan philosophique, Cicéron qui montre constamment, et c'est très intéressant, qui montre comment certains mots grecs sont traduits en latin. Et les pères de l'Église s'efforcent de montrer comment certains mots grecs, les pères de l'Église latins, sont transposés en latin. Vous voyez ? Et ces querelles sont revenues au moment où on a traduit le latin en français. Notre credo, toutes les querelles qui ont eu lieu pour savoir s'il fallait dire une seule nature ou consubstantielle entre le Père et le Fils, sans consubstantielle, une seule nature. Saint Augustin emploie aussi bien nature que substance, ainsi que Thomas d'Aquin. Ce sont les modernes qui savent plus très bien ce que c'est que la métaphysique, qui alors se sont mis à quereller là-dessus pour dire qu'il ne faut pas traduire une seule nature dans le credo, mais consubstantielle. Mais le mot nature et la substance signifient la même chose, peut signifier la même chose. Oui. Par le point de vue de l'essence. C'est l'essence qui fait le lien entre substance et nature. La nature veut dire l'essence et la substance veut dire l'essence. Alors voyez, il ne faut pas se battre sur les mots. On avait envie de dire à ces gens-là, écoutez, rappelez-vous ce que dit saint Thomas, il ne faut pas se battre sur les mots, il faut comprendre que les mots ont une certaine souplesse et qu'ils s'invitent à s'entendre en Dieu une substance, une nature, une essence. Trois personnes. Dans le Christ, on ne dit pas, dans le Christ, on ne dira pas deux substances, on dira deux natures et une personne. C'est intéressant, du reste, ça, point de vue langage. Alors, quand je dis qu'il ne faut pas se battre sur les mots, c'est très vrai. Mais il faut être très attentif au langage. Parce que c'est par le langage que je transmets. Je transmets la vérité ou des manques de vérité. Donc, le christianisme apporte un approfondissement énorme sur la personne. Et du côté latin, le premier qui a essayé de préciser ce que c'est que la personne, c'est Boès. Et Boès revient tout le temps. Mais le premier qui s'est libéré de la définition de Boès, substance rationnelle, non, substance individuelle, dans une nature rationnelle. C'est comme ça que Boès définit la personne. Une substance individuelle dans une nature rationnelle. C'est assez beau, vous voyez, parce que c'est substance et nature. Ça, c'est Boès. Et ça te recommande, Boès. Celui qui veut faire une petite enquête dans Saint Thomas, ça vaut la peine du reste. Hein. C'est un travail qui était, je crois, fait. Regardez dans Saint Thomas la précision progressive du mot substance. Au point de départ, comment dire des sentences, il prend la personne. On pourrait du reste voir ça dans le passage de Saint Thomas, ce serait très intéressant. Et puis, le point de vue, dans le De Potentia. La personne, c'est la dignité dans l'ordre de l'être. Donc, dans Saint Thomas, on a une vision métaphysique de la personne. C'est dans Saint Thomas. Mais la scolastique n'a pas intégré suffisamment la personne dans la philosophie première. Et je crois que l'effort que nous devons faire en philosophie première, c'est d'intégrer en philosophie première la personne. C'est l'effort que nous allons faire ensemble. Ça, vous le verrez. Cherchez les manuels scolastiques. C'est intéressant, vous, une fois ou l'autre, regardez Macquart, le dernier manuel scolastique. Il est à la bibliothèque. C'est en latin. Un bon manuel scolastique est en latin. C'est évident, c'est la langue universelle. Alors, regardez Macquart. Et vous verrez dans Macquart le métaphysique. Rien sur la personne. Voyez Gardeil, qui donne une petite métaphysique de Saint Thomas. Cherchez dans la table des matières, personne. C'est intéressant de faire ces petites enquêtes, parce qu'on voit très bien que là, alors le mot personne est resté au niveau psychologique. C'est vrai que les modernes, alors, les contemporains, le mot personne prend une force énorme, ce qu'on a appelé le personnalisme. Alors vous voyez, chez les modernes, d'une façon générale, diverses conceptions de la personne. La conception psychologique, il ne faut pas la négliger. La psychologie se noue autour du problème de la personne. Et il faut bien comprendre que le problème de la personne, chez les psychologues, je crois que c'est Audier, Charles Audier, qui a donné la perspective la plus profonde sur la personne et l'évolution de la personne. Alors, il donne trois dimensions sur la personne. Trois dimensions. Les sentiments du moi. Les sentiments forts du moi. Les trois sentiments du moi. Et Charles Audier dit que la personne se structure autour des trois sentiments du moi. Sentiment d'autonomie, sentiment de sécurité, sentiment de valorisation. Je crois que c'est une merveilleuse synthèse au point de vue psychologique. Je n'ai rien vu de mieux. Charles Audier, c'est déjà un certain temps, c'est pas tout jeune. Ça me semble bien supérieur à tout ce qu'on a dit après. C'est dans l'aspect génétique des trois sentiments du moi. Au plan de vue psychologique, c'est le moi. Et Charles Audier voit cela dans une conquête des trois fragilités du moi. Alors ça, je l'ajoute. Il ne le dit pas, mais je crois qu'on peut l'ajouter dans le sens de Charles Audier. De fait, on a victoire. L'aliénation au plan psychologique, hein, pas l'aliénation biologique. Il est aliéné, ce bonhomme-là. Oh, c'est ce que ça veut dire. Tandis que là, psychologiquement, l'aliénation, c'est tout simplement le fait de la dépendance. Le sentiment de sécurité par rapport à l'angoisse. Et le sentiment de valorisation par rapport à la culpabilité. Vous avez trois grandes abîmes psychologiques qui font une psychologie de fragilité et qui sont toujours présents. Autrement dit, notre moi psychologique le sentiment du moi, on est au moi du psychologique, donc on voit des sentiments, hein. Tâtez le beau. Vous réfléchissez sur ce que vous êtes, trois sentiments du moi. Et ces trois sentiments du moi que je conquiers, j'acquiers ma personnalité. Quand vous voyez un enfant dans le berceau, vous dites « Oh, quelle adorable personne !» Vous pouvez dire ça pour Jésus, mais personne d'autre. Quelle personnalité ce petit enfant ? Non ? On acquiert sa personnalité. Au plan psychologique, hein, comprenez ? La psychologie, le point mot personne, au point de vue psychologique, on l'acquiert. Et on lutte pour l'acquérir. Parce qu'en nous, il y aura toujours trois tendances. L'aliénation, la culpabilité, et puis l'angoisse.
De gosse à la lumière, on se culpabilise. Enfin, il y a une angoisse de culpabilité. Comme il y a une angoisse d'aliénation. Le mot angoisse prend les trois, mais le mot angoisse au sens propre, c'est toujours par rapport au futur. Donc, il y a là toute une réflexion psychologique. Voyez, et c'est intéressant, c'est autour de la personne que le lien se fait entre la psychologie et la philosophie. c'est le point aérien. C'est toujours là. Et vous jugez d'une psychologie en fonction de ce qu'on dit sur la personne. Tout le reste, c'est un peu du marécage, souvent. Tandis que la personne, c'est intéressant. Qu'est-ce que dit ce psychologue sur la personne? Et je crois que ce que dit Audier me semble quelque chose de très intéressant et très fort. Parce qu'en réalité, vos handicaps, comme on dit aujourd'hui, vos handicaps psychologiques se situent toujours à ces trois niveaux. Le point de vue, aliénation. Oui, on est trop lié à sa mère. Ça arrive, hein, ça. Alors on dit le cordon ombilical n'est pas coupé. On est trop lié à sa mère. Si on est trop lié à sa mère ou trop lié à son père, parce que la fille c'est le père et le garçon c'est la mère, on est trop lié à sa mère, on n'arrivera pas à quitter sa mère. Non, non, on a la vocation, on n'arrive pas. Non, non, c'est impossible. Oui, donc là, il y a une aliénation. Votre mère vous a aliéné. En vous couvant, en vous maternant. Et alors on recherche quelquefois, quand on a quitté sa mère ou que sa mère a disparu, alors on cherche quelqu'un qui vous remplace. Oui, c'est toute la psychologie. Une fois qu'on a compris les archétypes, c'est facile à comprendre. Alors l'aliénation, le manque de sécurité, parce qu'on cherche quand même un peu de sécurité.
Personne et l'acte, ça veut dire que le pape a supprimé sa personnalité par la foi.
c'est le problème de la personne. Leur philosophie se noue autour de la personne. Et chez Husserl, c'est intéressant, cette recherche qu'il a de la personne. C'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant chez lui. N'oubliez pas que Husserl est hémateux. Essayer de découvrir qu'est-ce qui est le lien de ma vie depuis mon premier moment de ma conception. Vous vous rappelez bien ce premier moment de votre conception jusqu'à maintenant. Il y a une continuité. Tous les matins, vous vous réveillez et vous faites la continuité avec la nuit. Si la nuit a été, c'est passé comme un instant.
Ce Saint-Père est tout à fait d'accord là-dessus.
Donc, avec la personne, on est en face d'un problème contemporain, en face d'un problème psychologique. Donc, on est en plein dans le contact avec le monde moderne, le monde de la sociologie, de la politique, le monde éthique. Alors, comment vais-je aborder au plan philosophique la personne? D'abord, premièrement, dois-je l'aborder en philosophie première ou dois-je l'aborder en éthique? C'est un problème, il faut se poser ça, parce que si je regarde en philosophie première et que c'est un problème éthique, je fais des bêtises. Voyez, les psychologues, eux, le situent au niveau des sentiments du moi. Husserl le situe au niveau ce qui demeure dans la succession. Ce qui est fondement sans être fondement, sans être sujet, mais qui demeure. L'élément permanent de ma vie, c'est ma personne. C'est juste l'élément permanent de ma vie. Depuis le premier moment de la conception jusque maintenant, il y a quelque chose qui tue. C'est ma substance. Alors, puis-je situer le problème de la personne au niveau de mes philosophies premières? Dit oui, non pas comme un troisième principe, on aurait substance, acte, personne, mais au niveau du pos, du comment. Je crois, c'est ce que Heidegger appelle le Dasein. C'est la réalité la plus parfaite que j'expérimente. La réalité la plus parfaite que j'expérimente. J'expérimente mon je suis. J'expérimente mon existence, mon exister. Et c'est la réalité la plus parfaite que j'expérimente. Je ne peux pas expérimenter une réalité plus parfaite que cela. Alors, ceci est très important parce que ça me permet de comprendre le point de départ et le terme de ma métaphysique, de ma philosophie première. Ceci est jugement d'existence. Je suis. Et toute ma philosophie première est en vue de passer du ceci au je suis. C'est extraordinaire quand on comprend cela. Alors, on a un sens beaucoup plus aigu de ce que représente la philosophie première. Beaucoup plus profond. Le passage de ceci est à je suis. C'est pas l'évolution. Dans le ceci est contenu le je suis. Et dans le je suis est contenu le ceci. Mais j'explicite dans le « je suis », ce que le « ceci » ne dit pas. Et c'est ça qu'il faudra essayer de comprendre. Je ne peux pas expliquer la personne au niveau purement anthropologique, au niveau purement éthique. Pourquoi? Parce que, justement, et là, la philosophie m'aide. C'est un tremplin. Il y a un élément permanent en moi qui demeure. Or, au niveau purement anthropologique, éthique, je reste au niveau de mes opérations. Or, je ne peux pas rester au niveau de mes opérations. La personne, c'est plus que mes opérations. C'est ce qui est source de mes opérations. et la source de mes opérations, c'est justement ma personne. Je suis responsable de mes opérations, de mes activités, et je les organise. Et c'est ma personne qui est source de ces opérations. Donc, je ne peux pas rester au niveau éthique, au niveau de la philosophie humaine. C'est dans la philosophie première